Comme ça, vous pourrez réécouter.
Voilà, donc j'ai pas intérêt à me planter quand même. Donc, on a un peu travaillé, heureusement, avec Mgr Santier tout à l'heure. Il a fait une interview d'ailleurs aussi à RCF qui sera diffusée samedi matin. Donc, déjà, regardons ce livre et regardons le titre qui est jamais choisi au hasard. Surtout quand c'est pas l'éditeur qui l'a choisi de force. Pardon ? Monter le son. Alors ça, je suis complètement incapable. Vous voyez ça ? Est-ce que c'est mieux ? Bon, et peut-être que si j'approche ma bouche, ça sera encore mieux. Voilà. Donc ce titre. La douce et fervente joie de l'évangélisation, donc on voit d'ailleurs un lien immédiat, c'est difficile hein, parce que je ne suis pas homme de radio, on voit tout de suite le lien avec sans doute la joie de l'évangile, l'exhortation du pape François. Est-ce vraiment, Mgr Santier, quelque chose que vous avez souhaité tout de suite ?
Non, pas directement, parce que, si vous voulez, le livre est le fruit de plusieurs retraites que j'ai prêchées dans des foyers de charité. Même avant d'être évêque, en Vendée, j'ai été sollicité souvent pour faire des retraites au foyer de charité de Tressaint. Parce que j'étais devenu un ami personnel du père André Vandenborg, et puis aussi par son successeur, le père Hervé Gosselin, qui est devenu évêque d'Angoulême. Et puis aussi, j'ai prêché aussi des retraites au foyer de charité de La Flatière, parce que le père Jean-François Hu, qui était du diocèse de Rennes, professeur au séminaire aussi, nous étions très amis, donc quand il cherche des prédicateurs, donc ils m'ont invité aussi à venir à La Flatière. Et alors, ce que, bien sûr, d'abord, la joie d'évangéliser, bon, ça vient aussi de ma propre expérience personnelle, hein, c'est-à-dire... j'ai vécu une expérience spirituelle assez forte dans la grâce du renouveau pendant mes études à Rome en 1973, mes études bibliques. Et j'ai eu une chance un peu exceptionnelle, c'est que dans le groupe de prière auquel je participais, il y avait deux de mes professeurs, le père Stanislas Lyonnais, qui était un grand spécialiste de Saint Paul, et aussi le père Donatien Mola. Et donc, nous faisions des relectures de la prière, et là, je peux dire que j'ai reçu une formation qui m'a beaucoup aidé par la suite. Et lorsque je suis rentré en France, j'ai participé à un groupe de prière à Coutances, et j'avais vécu cette expérience à Rome, où on avait prié pour moi. Et lorsqu'on vit c'était un 7 décembre, la vigile de la fête de l'Immaculée Conception, qui est très fêtée à Rome. Et les textes qui m'avaient été lus, c'était ce beau texte de la lettre aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Et puis la deuxième. Partie aussi, c'était une parole un peu d'une sœur qui était présente et qui a dit « Tu seras témoin de ma joie si tu acceptes d'être serviteur dans mon église. » Donc c'était quand même 6 mois après mon ordination sacerdotale, et donc ça m'a un peu marqué. Et donc, si plus tard, à Coutances, il y a eu le démarrage de la communauté Réjouis-toi, qui se réduisait encore cette semaine à Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est pour ça que je suis là, cette expérience de la joie, je l'ai reçue à travers une expérience spirituelle personnelle dans la grâce, un peu du renouveau. Et donc, ça m'a toujours habité cette joie de l'annonce de l'Évangile. Alors, voilà que ça s'enracine comme ça. Oui. Alors, de fait, quand j'ai préparé la retraite, et que puisque ce sont des méditations d'Évangile, et qu'il y avait un fil conducteur, qui est plutôt tiré d'ailleurs du pape Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, la fin, gardons la douce et fervente joie d'évangéliser, même si c'est dans les larmes qu'il faut se mettre. C'est un peu oui. Parce qu'un charisme dans l'histoire, pour des personnes, pour une communauté, se vérifie aussi parce que toute communauté, toute personne passe par des épreuves personnelles, et finalement, c'est là que aussi nous sommes purifiés par le Seigneur et nous sommes émondés.
Voilà. Très bien. Effectivement, on voit dans votre livre, beaucoup de liens sont faits avec l'exhortation de Paul VI, mais effectivement, on parle d'évangélisation, vous parlez même dans votre livre de cette fameuse nouvelle évangélisation, depuis que je suis tout enfant, je n'entends parler que de ça, mais j'ai jamais vraiment bien compris ce que c'était. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, me éclairer une bonne fois pour toutes, ma lanterne?
Vous savez, il y a eu un synode sur la nouvelle évangélisation et je ne prétends pas donner une réponse vu que les pères du synode ont réfléchi pendant 3 semaines sur ce thème et que le pape François a publié cette exhortation post-synodale, la joie de l'évangile. Mais je pense que celui qui a un peu insisté en premier sur cette idée de la nouvelle évangélisation, je crois que c'est le pape Jean-Paul II à Saint-Jacques de Compostelle, parce que je pense qu'il percevait que la situation en Europe et dans notre pays, c'est-à-dire nous sommes dans une société sécularisée qui met la question de Dieu à la marge de la société. Alors que, habituellement, en Vendée, comme on vient de le voir en Pologne, lors des JMJ, la foi imprègne la vie quotidienne en famille, la foi imprègne les relations, et on voudrait faire de la foi une affaire privée. Nous résistons parce que la foi doit s'exprimer aussi dans la société. Alors, on est dans cette société sécularisée, puis aussi laïque, et le pape Jean-Paul II percevait le danger de l'effacement du christianisme dans la société. Et donc, il percevait qu'en Europe, il fallait retrouver un nouvel élan pour l'évangélisation. Le mot qui a été employé, c'était un nouvel élan, une nouvelle ferveur pour l'évangélisation. Et peut-être aussi en appuyant, et ça se vivait déjà en France depuis les années 70, on a eu un moment avec la théologie un peu, on disait que Dieu était mort. Et c'est dans ce moment-là qu'est apparu un peu les courants des communautés nouvelles, qui insistait au contraire sur, au moment paraissaient les premiers cantiques « Il est vivant » ou les premières revues « Il est vivant », il y avait dans ces communautés le désir d'annoncer Jésus-Christ, d'annoncer le kérigme de la foi chrétienne, c'est-à-dire le cœur de la foi qui est la mort et la résurrection de Jésus. Et ça fait un peu choc dans les années 70, quand et Le pape, j'ai encore perçu ça en Pologne, il a participé, lui, Jean-Paul II, à un grand mouvement qui s'appelait Lumière et Vie en Pologne. Et il y était très actif. Et c'était un peu un mouvement aussi de cette... qui insistait aussi sur l'essentiel de la redécouverte de la foi. Et je pense aussi que dans... Le pape Benoît XVI a poursuivi, et le pape François aussi, ils ont insisté sur la nécessité, pour être chrétien aujourd'hui, de redécouvrir la grâce du baptême. Et c'est un des premiers chapitres du livre. Ce qui a été une difficulté dans la pastorale, c'est que beaucoup de chrétiens ont été baptisés et confirmés, mais ne vivent pas de l'expérience spirituelle qui correspond au sacrement qu'ils ont reçu. Et le pape, en réinsistant, même en France, quand il est venu, France, qu'as-tu fait de ton baptême? Ça n'avait pas été toujours bien compris, mais c'était parce que il désirer que les chrétiens fassent l'expérience spirituelle de la découverte que dans le baptême, eh bien, chacun de nous est ce fils ou cette fille bien-aimée du Père, et c'est la source de la joie quand on se sait aimé de Dieu d'une manière unique, eh bien c'est une source d'une joie profonde. Et le pape Jean-Paul II voulait que les chrétiens redécouvrent cette source du baptême qui n'était pas un événement du passé, mais on vit aujourd'hui du baptême, on vit de la grâce du baptême, on vit de cette grâce d'être enfant et bien-aimé. Et alors, il a voulu effectivement que... Moi, je retiens surtout du pape Jean-Paul II qu'il insistait beaucoup sur... un nouvel élan, une nouvelle ferveur pour l'évangélisation. Parce que beaucoup de chrétiens, en dehors un peu des lieux de culte, n'osent pas parler de leur foi, n'osent pas dire ce qui les fait vivre, ce qui les anime, ce qui leur permet de tenir justement dans les difficultés. Et c'est vrai que des auteurs, même comme Paul Claudel, disaient « Le devoir du chrétien, c'est la joie ». Alors bien sûr, ce n'est pas la joie exubérante que l'on peut, par exemple, ressentir dans des grands concerts comme Glorious ou qui rejoignent les jeunes dans leur culture aujourd'hui, et les jeunes en ont besoin. Mais il s'agit de la joie de se savoir aimé de Dieu, mais la joie aussi qu'à travers les difficultés, les fatigues, les épreuves que, comme chrétiens ou comme hommes ou femmes, nous vivons, ou bien c'est l'occasion d'une révolte contre Dieu, ou bien si on est, si on est acteur pastoral ou prêtre ou religieuse, ça peut être l'occasion d'une déception, d'une fatigue, d'une amertume. Ou bien, c'est aussi l'occasion de, lorsqu'on rencontre cette épreuve, eh bien, de découvrir qu'on est davantage uni au Christ dans la mort et la résurrection. Parce que le chrétien, pour saint Paul, c'est celui qui est, depuis le baptême, qui est uni à Jésus mort et ressuscité. Alors, qu'on vive des difficultés, nous n'avons pas à nous laisser enfermer dans ces difficultés, mais aussi à croire que parce que nous sommes aimés de Dieu, nous participons aujourd'hui à la résurrection du Christ. Et peut-être que moi, comme prêtre ou comme évêque, ces difficultés que j'ai pu rencontrer m'ont permis d'approfondir cette communion à Jésus mort et ressuscité, cette identification, et au lieu d'être une source peut-être d'amertume, c'est devenu une source de joie. Et une nouvelle motivation pour continuer à évangéliser.
Alors vous avez un petit peu mordu sur ma prochaine question, mais parce que je voulais développer un petit peu ce que vous mettez dans votre livre, qui me paraît extrêmement actuel, à savoir cette question de la joie. En effet, quand on est quotidien de jeunes adolescents, pour eux, quand on leur dit la joie d'être chrétien, ça leur dit pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que pour eux, la joie, le bonheur, c'est de posséder, c'est d'avoir le dernier écran qui va bien, d'avoir tout pour être heureux, comme on dit. Cette joie profonde d'être aimé par le Christ, comment ça donne envie aux jeunes aujourd'hui ? Comment ça peut être formulé ? Pour qu'ils comprennent que, quelquefois, c'est par l'effort, par l'obéissance, qui sait, à leurs parents, qu'ils peuvent arriver à trouver le chemin d'une vraie joie intérieure et d'une vraie joie de chrétien.
C'est-à-dire que pour des jeunes, bien sûr, la société... le chemin qui leur est proposé, c'est le chemin du fait, comme vous dites, de la réussite, de posséder des biens de consommation, de pouvoir communiquer avec des jeunes du monde entier à travers les moyens de communication. Mais je dirais, la joie chrétienne est presque à l'inverse de ce mouvement, parce qu'on n'achète pas la joie. La joie est un don. La joie ne se mérite pas. La joie est un don qu'on voit bien dans la Bible. Le Seigneur accorde aux petits et aux faibles. Par exemple, la joie de Noël, les premiers à l'avoir accueillie, ce sont les bergers. Et Marie, qui a donner la joie au monde en donnant naissance à Jésus, et était une jeune fille humble de Nazareth. Donc, je veux dire, on voit bien que on peut trouver moi, ça m'avait frappé il y a un certain nombre d'années. Nous avions accueilli, quand j'étais prêtre à Coutances, des jeunes de Madagascar pour un pèlerinage avec nous. Et ils n'avaient pas grand-chose. Quand je suis rentré en Afrique aussi, j'ai vu des jeunes qui n'avaient pas. Mais on sentait une joie profonde. Et que cette joie, c'est la joie de ne pas justement vouloir retenir, la joie de ne pas vouloir avoir raison en tout. C'est aussi la joie de pouvoir remettre sa vie entre les mains de Dieu. Et pour aujourd'hui, des jeunes, ce qui est difficile, c'est qu'ils sont dans une société où on leur propose tout le supermarché de ce qui existe. Et pour eux, c'est très difficile de choisir, de faire un choix. Parce que faire un choix, c'est renoncer à tout le reste. Mais faire un choix, c'est aussi ce qui permet d'entrer dans le chemin de la joie. Et d'une certaine façon, c'est vrai que choisir de construire un foyer, c'est s'engager à être aimé d'une seule personne, d'un amour privilégié, qui va pouvoir ensuite déboucher sur l'amour donné aux enfants. Mais ça suppose qu'on renonce à d'autres choses. Quand on est marié, on ne peut pas vivre une vie où on va sortir tous les soirs, aller au cinéma, aller faire la fête. On fait un choix. Et pourtant, il y a une source de bonheur. Le fait de suivre le Christ comme prêtre, pour des jeunes séminaristes aujourd'hui, eh bien, c'est un choix. s'ils sont appelés, parce que forcément ça ne peut pas être un appel volontariste, hein, ça peut être une réponse à un appel personnel qui, hein, quand si un jeune me dit, ben, j'ai pensé entre un séminaire, mais plus ça avance, plus je me sens triste. Ah ben, je vous dis, il faut quand même vérifier avant, parce que normalement, un appel, ça nous rend joyeux. Hein. Et quand des jeunes décident de faire une route ensemble aussi, il faut qu'ils perçoivent aussi cette joie, parce que voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu à contre-culture du fait de dire la joie ne se possède pas, la joie est un don. La joie, on ne peut pas la retenir, mais en même temps, Jésus nous dit que, comme elle vient de Dieu, on ne peut pas nous la ravir. Et ce qui pose question, c'est que justement, dans le monde d'aujourd'hui, les chrétiens vivent les mêmes situations que les autres, mais ils ont cette source intérieure de se savoir aimer, de Dieu, savoir aimer du Christ, eh bien, c'est ça qui leur permet de ne pas se laisser entraîner par un pessimisme total sur la société d'aujourd'hui, sur le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas avoir un discours négatif sur le monde, sur tous ceux qui nous entourent, et en même temps dire qu'on est chrétien, parce que là, même s'il y a des difficultés, des épreuves, le Christ nous a, et nous en faisons l'expérience, ne nous abandonne pas, il est présent, et c'est ça qui est la source de notre joie.
Donc, s'il faut avoir une tête de bonne nouvelle, si j'ai bien compris, il faudrait que ça se voit. Or, souvent, ce que nous disent nos jeunes, c'est, ici, pas que les miens, hein, c'est que quand ils nous regardent sortir de la messe, on n'a pas l'air si joyeux que ça. Alors, comment se caractérise clairement cette joie?
Bien, si vous voulez, si ceux qui viennent participer à l'Eucharistie ont fait l'expérience spirituelle de la rencontre personnelle avec le Christ, ils ne vont pas venir à l'Eucharistie comme un devoir. Ils vont y venir en réponse à un appel. Et je me souviens encore des questions de jeunes, parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui... Je vois encore leur tête, parce que à quoi ça sert d'aller à la messe? Alors j'ai répondu, ça sert à rien, mais ça change tout. C'est quand on est sur le mode de l'utilité, alors ils sont sous ce mode-là, et souvent aussi, je l'ai encore perçu au Journée mondiale de la jeunesse, beaucoup de chrétiens et de jeunes n'ont pas perçu que lorsque, par exemple, nous célébrons, comme nous le venons de le faire, la fête de l'Assomption. Dans l'Eucharistie rend présent pour nous cette joie que Marie a de participer à la résurrection du Christ. Ce n'est pas un événement du passé. Et c'est vrai que si les fêtes de l'Assomption dans beaucoup d'endroits avec tous les pèlerinages, je l'ai encore vécu en Bretagne, eh bien, on sent une joie, et cette joie, c'est la joie que la porte, notre monde n'est pas refermé sur lui-même et qu'il y a une porte, la porte du royaume, la porte de la vie éternelle, et Marie est cette porte. Alors, si on n'a pas compris ça, effectivement, on s'ennuie dans les célébrations. Et il faut pouvoir faire découvrir aux jeunes ce qui se vit à l'Eucharistie, même si c'est important qu'il faut qu'ils puissent prier avec leurs mots, leur rythme, leur chant, hein, que l'essentiel ne se trouve pas là, mais que l'essentiel se trouve dans le fait que les événements de notre salut, les événements de la vie du Christ sont rendus présents et que nous y participons et nous en vivons. Alors, c'est là aussi, c'est très difficile, et je me mets à la place de beaucoup de paroissiens dans le Val-de-Marne ou en Vendée, C'est-à-dire que, comme ils vivent de grands concerts, quand vous avez vécu Glorious un samedi soir avec des jeunes ou un autre, puis que vous allez le lendemain matin à la messe, ça paraît un petit peu fade.
Le micro.
Hein? Non, mais que vous voyez, ça paraît un petit peu fade quand vous avez assisté à un grand rassemblement et où ça a été très festif, où les gens, je vois ça avec le FRAD des lycéens à l'eau pour l'Île-de-France, ils sont 10 000. On les sent pris par les chants. Alors, ils vont retrouver. Mais la vie ordinaire n'est pas faite que de temps festif. On ne peut pas demander au curé de faire que la célébration de chaque dimanche soit la fête de Noël. Ils vont s'épuiser, nos acteurs liturgiques. Et donc, il ne faut pas confondre, je dirais, la foi avec l'intensité émotive. Alors, il faut du temps pour qu'ils entrent dans hein. Mais souvent, par exemple, au JMJ, il y a ces temps de très très forts, de concerts, de prières, ils sont très saisis de se retrouver à 2 millions ou 1 million et demi de jeunes à prier ensemble, mais en même temps, ils vivent des catéchèses. Ils vivent des temps personnels d'adoration, ils vivent des marches sous le soleil, ils vivent des conditions de vie qui sont très spartiates pendant les GMJ, et ils font des marches. Mais tout ça fait partie de l'expérience, parce que si on insiste que sur l'aspect joyeux du concert, eh bien, d'une certaine façon, comme ils sont dans une société d'émotions, mais qu'ils ont aussi certains, ou dans nos diocèses de périphérie, vécu des difficultés de famille, des blessures affectives. C'est vrai que dans ces grands rassemblements où se vit la fête, la joie, où il y a des appels à se remettre dans les mains de Dieu, il y a des jeunes qui vivent de véritables guérisons, de véritables changements. Mais il faut que vérifier qu'ils vivent, qu'ils n'en restent pas à l'émotion, mais qu'ils vivent une véritable rencontre avec le Christ.
Alors, tout à l'heure, au début, nous avons rapidement évoqué le titre, et nous avons rapidement évoqué aussi l'exhortation de Paul VI sur l'évangélisation, sur laquelle vous vous appuyez beaucoup dans le livre. Donc ces deux mots, douce et fervente, qui peuvent paraître un peu en opposition, qu'est-ce qu'elles font juste à côté de l'une? Est-ce que c'est un équilibre? Qu'est-ce que c'est? Vous le développez beaucoup dans le livre, mais je suis peut-être un des rares à avoir déjà lu le livre.
Alors, la douceur, c'est la douceur de l'évangélisateur qui vit l'esprit des béatitudes. Et c'est vrai que la douceur d'évangéliser, elle est pour tout chrétien. Et vous avez dû faire l'expérience quand vous avez osé un peu dans une situation précise. Osez parler de votre foi, osez témoigner de votre foi, alors que vous aviez eu un combat auparavant. Eh bien, quand vous avez vécu ce passage, après vous éprouvez une joie. Mais c'est une joie douce. La joie d'être aimé de Dieu et que la personne, d'avoir perçu que vous avez été devancé par le Seigneur lui-même auprès de cette personne. J'ai encore vécu ça. J'étais en Bretagne quand je donne la communion. Spontanément, ça m'est donné. Je pense, je souris. Eh bien, il y a une personne qui est venue me voir après la messe le 15 août en me disant, mais vous, quand je suis venu à la communion, j'étais très tendu, j'étais... Dites-vous, la façon dont vous m'avez donné la communion, eh bien, avec un sourire, ça a été vraiment quelque chose de très très fort pour moi. Bon, je ne m'attendais pas à ça, hein, voyez. Donc, la douceur d'évangélisation, c'est à travers notre attitude. Nos attitudes d'accueil, nos attitudes de non-jugement, l'espérance que le Seigneur agit dans le cœur des personnes. Hein. Alors, pour vous faire rire, parce qu'il faut un peu d'humour, hein, bon, il m'est arrivé cette expérience à Lourdes, aux frates des lycéens, au mois d'avril. Donc, j'étais l'évêque accompagnateur, donc c'est un gros travail. J'ai fait ça pendant 4 années, donc j'ai passé la main, là. Et alors, je me sentais disponible pour... être à l'écoute des jeunes et donner le sacrement du pardon. On a beaucoup donné le sacrement du pardon, on n'a pas arrêté, et il était 11h du soir, à la fin d'une veillée. 2 jeunes viennent me trouver en disant, on ne veut pas se confesser parce qu'on l'a déjà fait, mais on veut parler avec vous. Oui, parce que quand vous prêchez, vous avez une voix douce, elle nous rappelle la voix de notre grand-père. Alors je me suis dit, ça y est, je suis passé du stade de père à grand-père. Mais en fait, je l'ai vécu aussi au JMJ. Je pense qu'il y avait une espèce de confiance qui faisait que les jeunes sont venus tout raconter de leur vie avec confiance. Et je pense que la douceur, c'est la douceur qui habitait Jésus, puisqu'on dit qu'il était doux et humble de cœur. Ça ne l'a pas empêché de dire des fois les choses avec vérité. Mais dans la rencontre, parce que souvent l'évangélisation se vit dans la rencontre. Et dans la rencontre avec les personnes, c'est là que ça se vit. C'est dans la douceur, une douceur qui ne vient pas d'un tempérament, mais une douceur qui est un don et qui nous vient de notre lien avec le Christ. Et fervente. Pourquoi ? Ce n'est pas en opposition. Parce que quand on a été touché par l'amour du Christ, quand on est touché par la joie du Christ, on ne peut pas garder cette joie pour soi, on ne peut pas garder cet amour pour soi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les nouveaux convertis, par exemple, sont quelquefois gênants. Et qu'il ne faut surtout pas leur mettre un couvercle sur la tête. Hein. Parce qu'ils dérangent, parce qu'ils disent un peu leur découverte, ils disent ce qui les a touchés. Alors nous, dans une communauté chrétienne, on est bousculés. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi là, quel accueil faisons-nous aux nouveaux baptisés dans nos communautés chrétiennes? Est-ce qu'on se laisse bousculer par ceux qui redécouvrent la foi? Ou alors, par exemple, des jeunes qui reviennent des JMJ ou des frates à Lourdes, ils vont vouloir chanter le chant qu'ils ont appris à Lourdes. Bon, mais dans la paroisse, le programme est prévu du 1er septembre au 30 juin, donc ils ne peuvent pas chanter le chant. Alors forcément, ça bloque cette capacité qu'ils auraient de pouvoir, il ne s'agit pas de leur laisser chanter toute la messe, mais au moins de laisser chanter le chant qui a été animé leur rassemblement, parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est passé à l'assemblée. Dans notre diocèse, il y a 2 ans, à Lourdes, c'était « Je suis dans la joie, une joie immense ». Les jeunes ont chanté ça partout, dans toutes les églises. Et donc, ça, maintenant, tout le monde connaît ça dans le diocèse. Et je dirais, il faut qu'il y ait une ferveur. Si les chrétiens n'ont pas cette ferveur de faire connaître... la rencontre qu'ils ont vécue, qui a changé leur vie, ou qui est dans la fidélité, qui est une lumière pour leur vie, eh bien c'est vrai qu'on ne peut pas transmettre la foi si on n'a pas cette ferveur.
Donc ça ne s'oppose pas, ça se complète, très bien. Dans votre livre aussi, vous utilisez plusieurs fois un terme, bon, un peu... Imaginez pourquoi, mais j'aimerais que vous développiez, parce que c'est un choix de votre part, du souci de l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, on a souci des autres, mais qu'est-ce que c'est que réellement ce que vous avez voulu dire en utilisant plusieurs fois ce terme de souci de l'annonce de la bonne nouvelle ?
Bien, ça, pour moi, ça s'enracine dans la contemplation de Jésus dans les évangiles. On dit souvent que Jésus regardait les foules avec compassion. Parce que, bon, elles avaient faim pour la multiplication des pains, mais pas seulement faim de pain, mais faim aussi de dignité, faim de leur faim spirituelle, leur faim. Et ce regard de Jésus, ce d'amour sur les pécheurs, ou quand il rencontre un malade, on dit qu'il est saisi de compassion, il est retourné intérieurement. Et alors, c'est vrai que tout prêtre, tout évêque, tout chrétien doit être saisi par le fait que de plus en plus de personnes ne connaissent pas le Christ. Moi, je suis dans un diocèse de 1 300 000 habitants. Alors, il y a tout ce qui peut, il y a toutes les nationalités, toutes les cultures, les trois grandes religions. La ville de Créteil fait le tiers de la ville est juive. Il y a un autre quart, et c'est de la population musulmane. Il y a les chrétiens de toutes les confessions, il y a les bouddhistes. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Christ. Et on ne peut pas garder pour nous et se contenter des chrétiens qui se rassemblent le dimanche. Il faut que nous gardions ce souci de l'évangélisation de tous. Car le pape François dit que de la joie de l'évangile, personne ne peut être exclu. Cette joie est pour tous. Et donc, on ne peut pas. C'est pas quelque chose qui ferait qu'on ne peut pas dormir, parce que ce souci nous habiterait tout le temps. Non, c'est la confiance aussi en même temps. Dans ce livre, je développe un commentaire de la parabole du semeur. Et cette parabole est très belle parce que, après avoir montré que le semeur a semé sur plusieurs terrains, on dit que le grain qui est tombé dans la bonne terre produit du fruit 30, 60, 100 pour 1. Et j'insiste sur le fait qu'il y a deux tempéraments. Il y en a qui vont se concentrer sur tous les obstacles qu'on va rencontrer dans l'évangélisation, et il y a tellement d'obstacles qu'ils ne vont pas s'y mettre. Et puis il y a ceux qui voient comment, eh bien, des enfants peuvent aussi accueillir l'évangile, par exemple dans une école de prière, ou comment des catéchumènes redécouvrent la foi. Pour nous, dans notre diocèse, c'est important, parce qu'il y a 140 catéchumènes chaque année, et 300 confirmants. 140 catéchumènes chaque année, et 300 confirmants adultes, ce qui fait que l'évêque fait trois célébrations. Eh bien, on voit qu'il y a des gens qui redécouvrent la foi. Eh bien, il faut se remettre l'accent sur ce qui porte du fruit, et non pas, sans arrêt, voir les obstacles. Parce qu'à ce moment-là, on est complètement arrêté. Et on voit tout en négatif. La ferveur d'évangélisation, c'est ce regard ce regard que Jésus a posé sur les foules, et bien que ce soit aussi aujourd'hui à travers moi dans le métro, puisque je prends le métro, que je vois des gens, j'essaie de prier et de vivre ce regard d'amour sur les personnes qui sont là. Alors, c'est pour ça, c'est ce souci-là que nous avons à porter tous ensemble dans la prière, en nous soutenant les uns les autres. Et par exemple, là, moi, j'ai été très frappé dans la rencontre au GMJ. Il y avait un jeune qui était venu me voir pour m'exprimer comment tout l'amour qu'il aurait, il y avait personne effectivement, il n'y avait pas une personne précise, tout l'amour qu'il aurait pour celle qui deviendrait sa femme. Il a fait un texte qui était absolument magnifique. Alors il voulait en parler aux autres, mais il m'a dit, il ne faut pas uniquement que ça vienne de moi, il faut que je trouve un texte qui m'aide à porter ça. Bon, alors, qu'en voyant le texte, je lui ai dit, bon, moi, je vais lui proposer le cantique des cantiques. Je lui ai proposé le cantique des cantiques. Hein. Mais c'est lui qui est venu me revoir le lendemain, il m'a dit, si je comprends bien, ce texte, il parle pas seulement de l'amour de la fiancée pour, ou le fiancé pour sa fiancée, il parle de l'amour de Dieu pour son peuple. Il avait tout compris. Et donc, c'est là qu'on voit que le souci que nous devons avoir, c'est de, le souci de la parole de Dieu. Il ne faut pas, il faut sans arrêt permettre aux chrétiens de découvrir la parole de Dieu, de la prier, de la partager avec d'autres, de la découvrir. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit la conversion, c'est la parole de Dieu qui change les cœurs. Et nous devons avoir, pour un prêtre, pour un évêque, on a ce souci de la parole de Dieu, qu'elle soit découverte, annoncée. C'est ce qui fait notre vie. Nous avons été appelés pour annoncer la parole de Dieu. Et nous portons ce souci avec tous les chrétiens.
Bon, on prend l'engagement d'avoir le souci de bien mettre le micro devant la bouche pour les minutes qui viennent, surtout avec votre douce voix de grand-père. Donc, vous parlez aussi de cette, avec insistance, de cette question de toute l'Église est faite pour cette annonce. Toute l'Église est faite pour cette annonce. Que c'est pas que les, entre guillemets, spécialistes qui doivent annoncer la bonne nouvelle. Mais il y a une question qui se pose souvent à nous. Nous, à la librairie, on nous la pose souvent, on demande des livres pour éclairer. Par exemple, quand des grands-parents doivent exprimer à des petits-enfants tout petit, qui n'ont pas un grand vocabulaire, des choses qui paraissent assez compliquées. Comment faire quand on n'a pas les mots, quand on sait pas, quand on a l'impression qu'on ne va pas savoir expliquer, puisqu'on doit avoir ce souci de l'annonce, tous autant qu'on est, mais que on n'a pas forcément le vocabulaire, l'expression nette pour dire des choses que nous comprenons, mais nous avons du mal à expliquer dans des mots simples. Ça peut être aussi vis-à-vis de voisins qui ne sont pas du tout dans la culture chrétienne.
Ça, tout à l'heure, ça rejoint ce que je disais. Ce qui est premier pour avoir trouvé les mots pour exprimer sa foi, c'est la parole de Dieu. Parce que si les chrétiens ne se nourrissent pas de la parole de Dieu, ils vont pouvoir, bien sûr, se souvenir de certaines paroles, mais ils risquent de présenter ces paroles comme des actes à accomplir, comme une morale à vivre. Alors que la parole de Dieu, normalement, comme le disait le pape Benoît XVI dans son magnifique texte Verbum Dei, la parole de Dieu, c'est pas seulement un message, la parole de Dieu, c'est un visage. Et quand on partage sur la parole de Dieu, on reçoit bien sûr les mots de la foi, les mots qui ont nourri l'Église dans toute l'histoire, dans la tradition, mais on reçoit aussi le témoignage de foi de ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Et le premier témoignage des grands-parents, c'est le témoignage de leur foi. Parce que s'il y a le témoignage de la foi, ils pourront ensuite, se nourrissant de la parole de Dieu, au suivant des formations, puisque quand on arrive à l'âge de la retraite, pas vous, mais quand on arrive à l'âge de la retraite, on a davantage de temps. Et je pense, mais sur le temps que vous avez, donnez du temps à la formation. Et je vous le dis pourquoi, parce que dans les lettres des confirmants, dans les lettres des adultes qui demandent le baptême ou la confirmation, Eh bien, le témoignage des grands-parents revient sans cesse. Et même les grands-parents qui emmènent leurs enfants à 3-4 ans dans une église de Vendée au bord de l'eau, j'y vais au bord de la rivière, eh bien ça vient. 20 ou 30 ans après, des personnes se souviennent du témoignage de leur grand-père ou de leur grand-mère qui les ont amenés dans une église. Et en plus, ce témoignage de foi passe à travers une affection des grands-parents pour leurs petits-enfants. Et à ce moment-là, les mots qu'ils disent, même s'ils sont maladroits, ils ont une autorité. Et se vit une transmission de la foi. Mais il faut aussi être capable de, comme les petits-enfants posent un certain nombre de questions, il faut être capable de leur répondre et de se former pour pouvoir répondre à leurs questions. Et donc, il y a la formation, enfin, pour moi, c'est vraiment l'accueil de la parole de Dieu, de se laisser toucher par cette parole, convertir, cette parole qui nous met en relation vivante avec le Christ. Mais dans un deuxième temps, si nous voulons que le témoignage donné porte du fruit et que les enfants développent une intelligence de la foi, il faut que les parents, les grands-parents se forment au niveau de la foi chrétienne. Parce que vous voyez, pour les jeunes aujourd'hui qui sont dans des périphéries de la région parisienne, ils se trouvent devant des jeunes musulmans au lycée qui n'ont pas peur d'affirmer leur foi. Et nous, les jeunes qui sont dans la confirmation, ils sont en train de se réapproprier personnellement la foi qu'ils ont reçue de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc ils se trouvent en situation beaucoup plus fragile. Et donc, il faut que, par exemple, les parents ou les grands-parents puissent se former, les animateurs, pour qu'ils puissent aider les jeunes à répondre « Ah ben, toi, tu crois en trois dieux ?» Il n'y a qu'un Dieu. Ben, il faut être capable d'éclairer ça. Parce qu'autrement, les jeunes sont complètement bouleversés. Ce n'est pas possible que le Fils de Dieu soit mort sur la croix. C'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. C'est un peu bon. Alors ça suppose de réfléchir sur ce que c'est que l'incarnation. Sur ce que c'est aussi que vraiment le sens de la passion du Christ. Et donc je veux dire... c'est vrai que tout votre travail de libraire ou tout votre travail par les nouveaux moyens de formation, par Internet, et comme tous les jeunes vont facilement, c'est un travail, un chantier immense qui s'ouvre devant nous.
Donc il n'y a plus qu'un. Maintenant, allons un peu vers les derniers chapitres de votre livre. Je vais trouver qu'on va de surprise en surprise si on lit la table des matières, puisque ce n'est que en avant-dernier ou avant-avant-dernier chapitre, le 13e sur 15, que vous parlez de, alors qu'on a parlé de la joie depuis tout à l'heure, de passer de la peur à la joie. Donc, en fait, on était dans la peur. C'est très actuel, parce qu'effectivement, les médias nous donnent toutes les raisons d'avoir peur, aujourd'hui. Mais passer de la peur à la joie, est-ce que c'est quelque chose qui est du monde ou de la foi ?
Ben, les disciples, dans l'évangile de Luc, c'est ce texte que je commente, en voyant Jésus se manifester à eux, ils sont pris de peur parce qu'ils croyaient voir un fantôme. Et de fait, dans ce passage de l'Évangile, la rencontre avec Jésus les fait passer de cette peur qui les tenait enfermés dans le cénacle, avec la Pentecôte, l'audace d'annoncer Jésus-Christ et de le vivre dans la joie avec assurance. Donc, si nous nous laissons, il y a des raisons d'avoir peur dans la société d'aujourd'hui avec ce qui se passe. Mais si nous nous laissons enfermer par la peur, eh bien, il ne fera que grandir. C'est comme si la violence appelle la violence et on est dans un cercle infernal qu'on ne peut pas arrêter. Donc, même dans l'assassinat ignoble de ce prêtre, moi, par exemple, à Créteil, je revenais des JMJ, il y a eu la question de savoir quel type de célébration nous allions faire. Moi, j'ai tenu à célébrer l'Eucharistie, parce que j'ai dit, c'est un prêtre, et on fait mémoire d'un prêtre qui a donné sa vie, et donc, il est mort au cours de l'Eucharistie, moi, je n'ai pas laissé de discussion, je célébrerai l'Eucharistie. Les autorités sont venues, et il y avait beaucoup de musulmans qui étaient présents, qui étaient très affectés. Des musulmans étaient présents, ils étaient très affectés par... Mais il y a la face ignoble et qui suscite notre révolte. Et puis il y a l'autre phase, c'est ce qui s'est passé au pied de la croix, où Jésus a dit au bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon paradis. Je pense que cette phrase s'applique bien au Père Jacquemel. Il est entré dans le royaume de Dieu. Et j'ai fait cette prière au JMJ, sur le podium où les jeunes de Glorius ont chanté, et d'autres, et Grégory Turpin. Et j'ai fait cette prière et j'ai prié pour la paix par l'intercession du Père Jacques Hamel. Et après, j'ai été interviewé par BFM TV et par Europe 1, ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils en étaient restés à la face, l'unique face. Et c'est vrai que de le voir avec cette autre face, même au cœur d'une épreuve terrible, il y a quand même une source d'espérance. Et cette source d'espérance, c'est que, eh bien, ça a permis aussi à beaucoup de Français qui ont tous été choqués, quelle que soit leur appartenance, par cette qu'on puisse assassiner un prêtre célébrant l'Eucharistie, eh bien, ça a permis de dépasser la peur, de dépasser le réflexe de vengeance ou de haine pour entrer dans une autre compréhension de cet événement. Alors, ça veut dire que si la foi chrétienne que nous recevons comme un don et la joie que nous recevons comme un don, eh bien, c'est une force pour qu'au cœur des difficultés, des épreuves de ce monde, nous n'allions pas vers le découragement, vers la révolte, vers la haine, vers la vengeance. Et même les autorités civiles ont reconnu que les propos des évêques autour des événements étaient restés dans cette perspective. Et c'est ce qui a posé aussi question à la société. Moi, quand j'ai été interrogé après les événements de Villejuif, où deux églises de Villejuif qui est dans le diocèse ont été visées par un terroriste, quand on m'a interrogé à la radio, on m'a dit « Mais vous n'avez pas, vous n'incitez pas à la haine, à la vengeance ?» Et je dis « Mais comment, moi, je pourrais inciter à la haine, à la vengeance ?» Oui, je suis choqué, je suis dans la peine profonde, je souffre avec tous les catholiques, mais en même temps, on sait bien que le chemin qui nous est proposé par le Christ n'est pas le chemin de la haine et de la vengeance. C'est vrai que le pape François, qui a des formules et des images un peu étonnantes, il dit que en travers la douceur et la force, il dit que les forces, elles ne sont pas ceux qui ont besoin pour se manifester, d'écraser les autres et de leur marcher sur les pieds. Les forts, ce sont les doux qui vivent le chemin du pardon.
Voilà. Et vous concluez votre livre par deux chapitres, parce que c'est l'année de la miséricorde, ça peut être pas échappé à grand monde, sur le sacrement de la miséricorde du Seigneur et sur l'adoration eucharistique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur ce que vous avez mis dans le contenu de ces deux chapitres sur le sacrement de miséricorde et puis cette adoration de l'Eucharistie?
Il y a beaucoup de chrétiens qui, c'est pas le cas pour les jeunes, hein, quand on confesse au JMJ ou au frat, mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent le sacrement du pardon avec difficulté parce que pendant un moment, ils se confessaient par rapport à une morale. Et donc, ça a laissé des traces assez profondes. Et donc, j'essaie de montrer que le sacrement de la miséricorde est d'abord une rencontre avec Dieu. Faire l'expérience de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Comme Jésus l'a fait vivre à la femme qui lui a lavé les pieds chez Simon le pharisien. C'est-à-dire que le sacrement de la miséricorde et du pardon fait que chacun d'entre nous ne se réduit pas aux actes qu'il a posés. Même si ces actes sont douloureux, ou si on a l'impression de retomber toujours dans les mêmes ornières, il y a dans notre vie un mouvement. Et si on reçoit ce sacrement comme un don, comme une expérience de la miséricorde de Dieu, eh bien, tout au long de notre vie, eh bien, il y a une transformation qui se vit. Vous savez, en Normandie, on parle du crachin. C'est pas tout à fait la même chose qu'en Vendée. Mais le crachin, à force il commence à mouiller. Et à force de recevoir la grâce du sacrement du pardon, eh bien, on y vit de profondes guérisons. Mais pour ça, pour avoir le désir de recevoir ce sacrement, il faut comprendre qu'on fait l'expérience de la rencontre avec Dieu. Et on fait l'expérience de sa miséricorde. À ce moment-là, on n'a pas peur de se remettre entre les bras de Dieu. Alors, pour l'adoration, moi, j'avais été frappé par une intervention de Monseigneur Perrier, qui était évêque de Lourdes, qui avait fait une intervention au synode sur l'Eucharistie. Parce que il avait dit ce qui se vivait à Paray-le-Monial pendant l'été, où les gens vivent l'adoration, dans ces grands rassemblements. Il y a beaucoup de monde qui vit l'adoration. Il a dit, quand il a mis la tente d'adoration à Lourdes, il croyait que ce serait des grands-mères qui viendraient, ou des grands-pères. Et je n'ai rien contre, puisque, mais il s'est aperçu, au contraire, que c'était des jeunes et des jeunes familles qui venaient à l'adoration. Et il posait cette question. Alors, c'est vrai que théologiquement, le Concile Vatican II a remis l'accent sur la célébration de l'Eucharistie elle-même. Et que l'adoration eucharistique, c'était la prolongation de l'Eucharistie. C'est tout à fait vrai, et ça demeure. Mais aujourd'hui, devant cette difficulté, on en a parlé, de la participation régulière des jeunes à l'Eucharistie, il avait constaté que c'était, la pédagogie était inverse. Des jeunes redécouvraient la place de l'Eucharistie dans leur vie par l'adoration. Et donc, l'Eucharistie, l'adoration n'est pas seulement la prolongation de la célébration de l'Eucharistie, elle peut aussi y préparer et permettre d'entrer en profondeur dans le mystère de l'Eucharistie.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, sur toutes les idées que vous avez, sur beaucoup d'idées que vous avez développées dans votre livre. Bien sûr, il en reste beaucoup à découvrir en achetant le livre. Mais si vous voulez bien, on pourrait peut-être organiser un petit débat si vous avez des questions, parce que voilà, je sais pas, la science infuse, vous avez peut-être des questions que moi j'ai pas su poser. Peut-être en levant la main et puis en parlant fort. C'est toujours la première question la plus difficile. Mais souvent, elle est bien la première question.
Oui. Oui, la difficulté pour les enfants, c'est que nous sommes actuellement dans un monde où il y a très peu d'enfants qui se disent chrétiens. Donc nous, en tant que grands-parents, on a des enfants. Nous sommes dans une société où il y a très peu de jeunes qui croient. Parce qu'à côté, les copains et copines, ils se moquent d'eux si les parents pratiquent. Donc, c'est là où c'est difficile d'évangéliser. En fait, je comprends qu'il faut évangéliser, parce qu'autrefois, nous allions tous à la messe. On n'avait peut-être pas besoin d'être évangélisé, tandis que maintenant, il faut aller les chercher. Mais comment faire? Parce que souvent, moi, en ce qui me concerne, on me dit, tu as la foi, et tout ça, quoi, ils ne comprennent pas. Comment faire pour parler de notre foi? Bon, moi, je le fais, mais ce n'est pas évident, parce que les enfants, ils ont envie de faire autre chose, les copains ne pratiquent pas, ils ne veulent pas.
Pression.
Je vais vous répondre par une histoire, parce que dans le diocèse de Créteil, j'ai un peu poussé pour qu'existent des maisons d'évangile à la maison. C'est-à-dire qu'on ne réserve pas l'évangile au lieu de l'église ou de la prière, mais aussi que l'évangile pénètre à la maison. Alors, il y a un petit cheminement qui est proposé. Donc, il y en a qui vivent ça en invitant leurs voisins. Et j'ai entendu le témoignage d'une catéchiste qui me disait nous avions l'habitude d'inviter des amis trois fois par an à manger. Et on faisait des jeux. Et puis nous est venue l'idée de, pourquoi pas, de partager un passage d'évangile. Alors ils l'ont fait avec la méthode, les enfants des deux familles qui participaient, tout ça. Réflexion des amis en partant le soir, ça faisait des années qu'on attendait que vous nous parliez de notre foi. Vous voyez ça? Alors c'est vrai qu'il y avait une relation, il y avait une relation d'amitié, et qu'il faut créer cette relation d'amitié. Mais ce qui est, vous, par rapport à vos petits-enfants, c'est qu'il y a une relation de confiance, qu'il y a une relation d'amour. Et ce que vous semez, même si apparemment, moi je vois que ça se réveille quand ces jeunes qui n'ont pas la foi et qui recherchent quelque chose, eh bien, ça remonte, le témoignage des grands-parents. C'est ce que je constate. Alors, l'essentiel, c'est que ce que vous dites, eh bien, vous le viviez. Et les enfants le percevront un jour ou l'autre. Parce qu'il n'y a pas de recette toute faite. Mais je pense que la grâce possible entre les grands-parents et les enfants, c'est que ça se base sur une relation de confiance. Et comme il y a cette relation de confiance, eh bien, vous pouvez aussi exprimer votre foi. Et pour chez grand-mère, on prie, parce qu'elle prie le soir. Et moi, j'ai vu ma grand-mère prier son chapelet au pied de son lit. Ça faisait partie de sa vie. Quand j'allais chez elle, Mais ça faisait partie de la vie. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qu'ont découvert un peu les jeunes Français accueillis par les familles polonaises. C'est que la foi se vit à la maison. Et peut-être que c'est l'occasion pour nous de ne pas avoir peur. Mais bien sûr, le résultat ne nous appartient pas. Il ne sera pas forcément immédiat.
D'autres questions? Oui, madame.
Je voulais dire...
Oui, la voix forte, du coup.
Je voulais dire...
Fervente.
Évangélisation. Bon, il y a des enfants qui sont évangélisés par le caté, c'est organisé et tout ça. Mais s'il n'y a que ça, la ville où je vis, il y en aura un grand pourcentage qui n'entendra jamais parler de Jésus-Christ. Je voudrais savoir quand même les chemins. Si on ne prend pas des chemins de rencontre, toutes simples dans les quartiers... là, au sport, n'importe où, et être en confiance avec les gens qu'on rencontre, pas forcément les enfants, mais ça peut être les parents, ça, s'il n'y a pas des chemins qu'on va prendre en dehors de notre église bâtiment, je pense qu'il faut qu'on sorte, quoi, mais pas sortir pour être visible de manière à éliminer tout le monde, mais être. J'ai entendu ce matin sur RCR le témoignage de monsieur Parizeau. C'était vraiment émouvant. Et il insistait, c'est pas tout ce que vous allez faire, mais si vous êtes des hommes de paix, si vous êtes des femmes de rencontre, si vous êtes des femmes du dialogue, et nos petits-enfants, ils ne sont pas, ils vont pas être sots, ils vont le voir, et un beau jour, il y a quelque chose qu'on pourra leur dire. Et je pense que c'est pareil, là où on est, il faut qu'on ait des petits lieux, être avec les gens, il me semble, mais tout simplement, et c'est par cette petite rencontre que petit à petit, ils vont nous poser une question, ou une autre. Moi, je ne me vois pas du tout évangélisée, enfin, je ne sais pas comment vous voyez, mais par des grands discours ou autres. Mais si on est en cohérence, nous, avec l'évangile, je pense que finalement, il y a des choses qui passeront. On ne les verra peut-être pas, mais je crois qu'il y a des choses qui passeront. Mais ce n'est pas simple d'être en cohérence avec l'évangile dans le monde d'aujourd'hui. Mais ça peut le faire.
Alors, c'est un peu ce que j'ai dit, parce que le livre insiste beaucoup plus sur les attitudes de l'évangélisateur que sur le comment, hein, sur la cohérence de l'union avec le Christ pour pouvoir évangéliser. Mais dans le diocèse de Créteil, là, la suite, bon, j'ai parlé des maisons d'évangile, c'est pour qu'il y ait cette proximité en invitant des voisins, des amis, de partager simplement cette parole de Dieu. C'est ce qui s'est vécu à travers les équipes synodales, et bon, qui était centré sur des textes de la parole de Dieu, et les gens ont beaucoup apprécié, et ça se continue dans les quartiers. Hein. Et il y a un diacre chez qui je mangeais en fin juin qui m'a dit, ben, mes voisins, ils continuent à venir à partager la parole de Dieu, mais ils n'en sont pas encore à faire le pas d'aller directement à l'église. Il faudra encore du temps. Hein. Mais ils se raccrochent, et pour eux, se partager l'évangile, c'est vraiment très important. Et dans un quartier aussi, à Charenton-le-Pont, c'est parti d'une communauté religieuse. Elles sont trois à vivre dans l'immeuble. Alors, elles ont commencé avec la concierge, hein, qui un jour est venue les trouver, n'en pouvait plus, et la première chose qu'elle a demandé, c'est chez les sœurs, si elles pouvaient dormir. Alors, les sœurs ont ouvert et l'ont laissé dormir. Et puis après, elle a parlé. Elle a parlé parce qu'elle n'en pouvait plus à travers tout ce qu'on lui demandait. Et les sœurs lui ont dit, mais ben, nous on prie pour les habitants là, on prie pour... Est-ce que vous voulez venir prier avec nous? Alors elle est venue prier, c'était la première qui est venue prier avec elle chaque semaine. Mais au fur et à mesure, comme elle était la concierge, elle en a invité d'autres. Hein? Et donc on s'est retrouvés, moi je suis allé lors de la visite pastorale et après j'y suis retourné. Elles peuvent être 18 ou 20 personnes de l'immeuble à se retrouver. Et après, ben, il y a eu des personnes qui ont fait la demande de la confirmation. Il y a eu des enfants qui n'étaient pas baptisés, tout ça, ça. Et il y a même une personne qui s'est, de ce groupe qui s'est trouvée élue pour participer aux assemblées synodales. Donc, avec ce qui se vit de fait dans la rencontre et la proximité, et c'est ça qu'on voudrait créer, puisqu'on va essayer non seulement de créer des maisons d'évangile, mais aussi dans une des résolutions du synode, de mettre en place des fraternités de quartier, et c'est déjà commencé. Voilà.
Une autre question, peut-être ? Oui, madame ?
Quel chemin, nous, on peut prendre pour évangéliser autour de nous, en fait ? Parce que déjà, ils sont complètement fermés, quoi, sur Dieu, quoi, ils voient Jésus, on la croit, et c'est tout, quoi. Voilà.
Quel chemin pour trouver les autres, pour pouvoir les évangéliser ? Comment on peut aller les rencontrer ?
C'est-à-dire que les visages fermés que l'on trouve, c'est parce qu'il y a des souffrances. Et que ça ne peut être que par une attitude d'aller à la rencontre, une attitude ou à cause de ce visage, de ce regard porté sur la personne, ce regard de Jésus que l'on peut puiser dans la prière, qui peut faire que cette rencontre ne soit pas une rencontre banale, mais qu'il se passe quelque chose, parce que quand une personne est vraiment dans la difficulté, l'épreuve, on ne peut pas projeter des paroles. Il faut qu'il y ait se vive une rencontre et que la personne sache qu'elle va être écoutée, qu'elle se sente en confiance, parce que quand la personne commence à dire, à déposer sa souffrance, c'est déjà un premier chemin. Et je pense que le chemin de la rencontre, le pape François y insiste beaucoup, d'aller vers. Peut-être c'est nous-mêmes qui sommes évangélisés. Le pape François insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que d'aller à la rencontre. Parce que, vous voyez, Jésus lui-même, je parle de ça aussi dans, a trouvé la foi chez des personnes chez qui il ne s'attendait pas à trouver la foi. La femme païenne, le centurion romain, jamais je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Si nous allons à la rencontre des personnes, de fait, nous pourrons trouver la foi chez des personnes chez qui on n'attendait pas, et c'est nous-mêmes qui serons renouvelés dans cette manière d'évangéliser. Dans cette, voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
C'est un petit peu ça, mais aussi des gens qui ne connaissent pas du tout Jésus, jamais ils ont entendu parler. Pas vraiment qui souffrent, mais qui connaissent pas du tout Jésus. Comment nous, on peut amener à leur faire un peu parler de Jésus, en
fait. Oui, mais si vous voulez, comme je vous dis, ça ne peut pas se faire comme ça directement. Même quand il y a, par exemple, une évangélisation de rue, une personne peut être touchée parce qu'il y avait déjà dans son cœur un désir, une recherche, et que cette proposition, eh bien, suscite dans le cœur met en lumière une recherche qu'il y avait dans le cœur de la personne. Mais là encore, ça se vit dans la rencontre.
Monsieur.
Si au cours de notre vie active, de notre vie de prière, on n'a pas réussi à y intégrer nos petits-enfants, à les faire, leur faire découvrir, est-ce que nous, les personnes âgées, on ne pourrait pas écrire notre histoire et en l'appuyant sur les raisons de notre foi ? Pourquoi on a agi de cette façon-là ? À la lecture de l'Évangile, citer les paroles de l'Évangile, les petits-enfants particuliers sont très friands de lire l'histoire des grands-parents. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par ces écrits ou par des enregistrements, témoigner de cette façon-là ?
Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est, je ne peux que vous encourager. Je connais un médecin qui a écrit à Nogent-sur-Marne, qui m'a présenté des choses qu'il écrit pour ses petits-enfants et qu'il transmet à ses petits-enfants. Et... Oui, Madeleine.
Est-ce qu'on passe la génération des parents? Alors, on parle toujours des grands-parents. On a le rôle premier d'abord, les parents. Bon, c'est vrai qu'ils ne touchent pas.
Moi, je ne parle pas.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu une génération après mai 68 bon, qui a décroché de la foi et donc ils n'ont pas pu transmettre. Mais il y a un changement actuellement. Il y a à nouveau des jeunes familles, des grands-parents qui ont un grand souci de l'éducation de leurs enfants. Et qu'il va falloir s'appuyer sur eux, de fait, pour, vous le disiez tout à l'heure, l'évangélisation ne repose pas que sur les spécialistes, mais sur aussi sur tous les chrétiens. Mais ces parents qui n'ont pas reçu, je le dis aussi dans le livre, ils vont se présenter, mettons, surtout encore en Vendée, ils vont peut-être un peu moins dans le Val-de-Marne, mais ça, ils se présentent quand même. Si vous voulez, moi, il se trouve que dans le diocèse, quand je lis les demandes des adultes qui demandent le baptême, se trouvant, sur 140, il y en a au moins une vingtaine qui demandent le baptême après le baptême de leur enfant. Donc, normalement, si je suis le droit de l'Église, on ne doit pas baptiser des enfants dont les parents ne sont pas baptisés. Mais quand je lis ce témoignage très souvent chaque année, qui suis-je pour empêcher l'Esprit-Saint d'agir? Et qui suis-je si l'Esprit-Saint agit à l'envers de ce qui a été prescrit? C'est pas de ma faute. Hein? Alors, donc,
c'est la faute de l'Esprit-Saint.
Alors, je veux dire, c'est là. Et je veux dire aussi, ces parents, quand ils sont, par exemple, avec dès le début que j'étais là, j'étais habité par une expérience d'évangélisation des enfants par l'école de prière que j'avais vécue dans la Manche, et on a partagé ça très vite avec Jean Bondu, et je pense que cette expérience continue ici en Vendée. Eh bien, je pense que il y a aussi l'évangélisation des enfants. Hein? Il faut croire aussi que ça se vit dans ce sens-là. Quand des parents n'ont pas reçu, on ne peut pas. Et puis quand ils se présentent pour demander un sacrement, on se rend bien compte vite qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience de foi. Mais sur leur demande pour la question « Pourquoi voulez-vous baptiser votre enfant ?», ils sont complètement perdus. Parce qu'ils pensent qu'ils doivent rendre des comptes. Hein, c'est le pape François dit qu'il parle de la douane là. Hein. Donc, je pense qu'il faut plutôt écouter. J'entends des jeunes qui me disent, mais donner naissance à un enfant, ça me dépasse complètement. Alors, laissez le récit de la naissance de l'enfant. Et là, ils disent des choses. Et c'est peut-être à nous, chrétiens, de dire la foi à ce moment-là, au cœur même de leur expérience qu'ils ont. Jésus a laissé les disciples d'Emmaüs parler, d'abord. Et puis ensuite, à un moment, il a annoncé que l'histoire qu'il venait de raconter, eh bien, elle s'éclairait à la lumière de sa mort et de sa résurrection et des prophètes. Eh bien, je pense que dans ce que disent les fiancés ou les parents qui demandent le sacrement, eh bien, nous avons à un moment, à partir de ce qu'ils disent, par exemple, des fiancés, s'ils parlent, si on leur fait parler comment ils se sont rencontrés, quelles étapes ils vivent dans l'amour, s'ils ont vécu l'étape du pardon entre eux, eh bien, on leur fait découvrir que Dieu est présent dans leur amour. Ils cherchaient Dieu ailleurs. Et découvrir que Dieu est présent dans leur amour et que par son pardon, par les difficultés qu'ils rencontrent, ils peuvent progresser dans l'amour. Et là se vit une annonce aussi de l'Évangile. Mais c'est à nous de le faire. Et c'est à nous de dire la foi qu'on trouve, c'est ce que faisait Jésus, il annonçait la foi qu'il trouvait dans le cœur des personnes. Je ne sais pas si ça vous est clair.
Voilà, mais merci beaucoup, Père Sentier, pour tout ce partage. Je vais demander à Jean Bondu, qui connaît bien Monseigneur Sentier, peut-être de faire une petite réaction. Vous avez entendu aujourd'hui.
Voilà, moi je voulais d'abord vous dire merci d'être venu. Nous sommes toujours heureux de vous entendre et de vous accueillir. Le nombre le montre, je crois. La salle est trop petite, et donc ça dit la joie des Vendéens à vous voir parmi nous encore aujourd'hui. Alors, moi, j'ai pas lu votre livre. Donc, je m'engage à le lire d'ici Noël et d'ici la visite que je vous rendrai à Créteil. Mais ce que je retiens, c'est d'abord un appel, une fois de plus, à nous mettre dans l'évangélisation. On avait entendu les nombreux papes, vous l'avez dit, et le pape François nous a bousculés avec la joie de l'Évangile. Finalement, vous ne laissez pas dormir, quoi. Vous nous secouez encore pour faire retentir cet appel du Christ à annoncer la parole de Dieu. Voilà. L'appel demeure pour nous, et il faut sans doute que nous n'en restions pas à nos peurs, à nos échecs, à tout ce qui peut nous paralyser. Voilà, j'entends ça. Et puis, vous ne séparez pas cet appel à évangéliser de la joie. Ça, on le savait, puisque c'était votre devise également en Vendée. Donc, vous êtes enraciné dans la joie du Christ et dans la joie de la résurrection. Donc, ça, c'est. Mais ça fait plaisir à réentendre, et surtout, ça interroge notre propre foi chrétienne. Mais aussi dans cette rencontre du Christ. La joie, elle vient de la rencontre personnelle du Christ. Et finalement, je me demandais si évangéliser, ce n'était pas simplement servir la rencontre de l'autre avec le Christ, orienté vers le Christ, et nous situer dans l'humilité en sachant que nous ne pouvons pas grand-chose, mais que nous sommes ce petit témoin dans une communauté qui va essayer de faire quelque chose. Et là, j'ai l'impression que votre livre nous met sur des chemins de recherche ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de comment qui sont venus ce soir. Il y a des recettes, il y a des expériences, il y a des témoignages. Et il faut qu'on s'appuie là-dessus, mais on est en recherche. Donc merci beaucoup.
Vous savez, c'est vous qui m'avez formé au ministère d'évêque. Et si je peux assumer la responsabilité d'un diocèse important, parce que je suis arrivé quand même assez jeune évêque, il y en a qui me disaient au début que j'étais même assez discret, ça s'est fait petit à petit. Hein. Et c'est vrai que c'est vous qui m'avez formé à ce ministère d'évêque, que je vis de façon aussi heureuse et aussi joyeuse dans le diocèse de Créteil. Et vous savez, j'ai été ordonné, ça va faire 15 ans, hein, ici à La Roche-sur-Yon, hein, le 23 septembre. On est prêtre, bien sûr, le jour de son ordination, on est évêque le jour de son ordination, mais on le devient grâce au peuple qui nous est confié. Grâce à la vie de foi, moi j'ai été évangélisé par la foi des Vendéens, comme je suis évangélisé aussi par la foi de ceux que je rencontre, hein, dans le diocèse de Créteil. Et je puis vous dire que je n'ai jamais oublié, même si ça fait 9 ans, je n'ai jamais oublié le bonheur d'être évêque en Vendée.
maintenant, mais je vous propose pour ceux qui ont déjà.